c'est vieillir, rien de plus, constatait Simone de Beauvoir. Une expérience naturelle, inéluctable, à laquelle Ovide répond que les années nous viennent sans bruit. Alors une question qui vous taquine peut-être, à quel âge est-on au fond le plus heureux? À 20 ans, animé du sentiment que rien n'est impossible, à la trentaine avec l'accomplissement professionnel et peut-être familial, eh bien, rien de tout cela, le bonheur, figurez-vous, serait à 60 ans, avec un creux de la vague prévu entre 45 et 54 ans. C'est en tout cas ce que nous révèle une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, mais surtout trêve d'enquête, au fond, question que nous posons ce matin, comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans? Pourquoi pas? Eh bien, nous allons tenter d'y répondre. Marie-Ange Enquête de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour, Florence Avant-Schreiber. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteure conférencière. Vous avez publié quelque temps Écrire pour s'épanouir et kiffer. Comment osez-vous utiliser ce terme, ce verbe chez Marabout?
Il est dans le dictionnaire.
Et maintenant, il est dans le dictionnaire.
Ouais, ouais,
non,
ouais.
Mais où va le monde? Alexandre Jardin est également avec nous ce matin. Bonjour Alexandre.
Bonjour,
Jardin.
Bonjour.
Vous qui êtes écrivain, évidemment, qu'on connaît avec son zèbre. Parce que chaque fois que... Ah, c'est celui du zèbre. C'est l'écrivain du zèbre, hein. Vous connaissez tous. Voilà, évidemment, beaucoup d'ouvrages sont sortis depuis ce temps. C'était en quelle année, le zèbre, d'ailleurs?
Je ne sais plus.
Vous ne savez même plus.
C'était l'année du zèbre.
C'était l'année du zèbre. Vous ne comptez plus les années. Et vous sortez donc ce dernier petit bébé, si je puis dire, vos magiciens, les magiciens de votre vie. Et j'ai presque envie, eh bien, de vous citer pour commencer cette émission, puisque nous sommes quasiment dans le thème, si je puis dire. Vous dites « Il m'est resté de cette enfance casse-gueule un goût certain pour les déformatés de tout poil qui ont toujours constitué mon biotope. Espion multicarte, prostitué de haute tenue morale, handicapé positif, gaucher bienveillant, réprouvé divers, noir désiré d'explorer une autre couleur, moine pris dans des transes de l'amour charnel, braqueur de banque sans préjugés, etc. etc. Tous à leur façon, dites-vous, m'ont initié à une pensée libre, turbulente, qui m'a réconcilié avec le réel. » Peut-être est-ce carrément une des premières pistes pour ne surtout pas chercher à rentrer dans une case qu'on ait 20 ou 40 ans ou plus, Alexandre Jardin. C'est votre petit secret de jouvence, ça, c'est quoi?
J'ai été très, très vite initié à une vie extraordinairement libre. Mon papa faisait quelque chose d'assez simple que je vous invite à faire. Quand on était sur l'autoroute, de temps en temps, il regardait les panneaux et il me disait, tu vois le panneau autre direction? Il me disait, si on y allait. Et sauf qu'au lieu d'en faire une plaisanterie, il donnait un coup de volant.
Et donc il y allait?
On y allait.
Prenez la sortie de route.
Oui, et on sortait et on suivait ensuite les autres panneaux autre direction. Et ça nous emmenait.
Où ça, du coup, dans des villages ça, improbables hein?
Une fois, ça nous a emmenés jusqu'à Rome. Une autre fois, on est arrivé dans un monastère, je me souviens, en Seine-et-Marne. Une autre fois, etc., etc. Il nous arrivait tout le temps quelque chose. Et donc, il m'apprenait qu'on avait le droit de sortir des autoroutes.
Ouais.
Que le monde ne s'effondrait pas. Alors que je voyais bien que personne ne le faisait. C'est-à-dire que j'ai très vite été accoutumé à l'idée que si on sortait de l'autoroute, quelque chose de merveilleux arrivait.
Ouais.
Et quelque chose de merveilleux arrivait toujours.
C'est une sorte de philosophie, pardonnez-moi, je donne juste la parole là, en introduction de cette émission. Merci Alexandre Jardin, à Florence Savant-Schreiber. C'est pas très galant ce que je fais ce matin, mais effectivement, la piste, j'allais dire l'issue de secours, mais non, l'autre direction qui est peut-être l'écriture est aussi une voie de salut quand on approche à des âges. Alors là, on a utilisé la quarantaine aujourd'hui. C'est vrai qu'on, pour les femmes, c'est vrai qu'on a tendance surtout à le dire, cette crise. Mais pas forcément, hein, ça peut être pour tout le monde. Un cap difficile à passer, il n'y a pas que celui-là. Mais est-ce l'écriture peut-être une bonne. Quelque chose qui peut aider, en tout cas, qui peut aider à éclaircir, ce qui est peut-être pas si sombre que ça, je ne sais pas.
Alors l'écriture, c'est le panneau toute direction, c'est-à-dire qu'on peut y faire absolument ce qu'on veut. C'est un pays libre. Ouais. c'est un pays où on a des codes complètement personnels. Ce que j'essaye de faire autour de l'écriture, c'est surtout d'expliquer que même si on ne sait pas écrire, on peut écrire. Même si on fait des fautes d'orthographe, on peut écrire. Parce qu'il y a quand même, on a la sensation qu'il y a des panneaux qui nous tiennent justement et qu'on a le droit d'écrire des gens qui sont traversés par ceci ou cela ou qui étaient bons à l'école ou je ne sais quoi. Alors que c'est vraiment une expression de la voix qui habite dans notre tête. Donc, si on lui donne un crayon à cette voix-là, finalement, tout le monde a quelque chose à écrire. Et ça n'a pas besoin d'être de la fiction. Alexandre Jardin écrit de la fiction. Ouais. Ou même quand ça n'est pas de la fiction, eh bien, c'est quand même très... les histoires sont formidables à suivre. Je n'ai pour ma part pas ce talent-là, mais j'ai le plaisir absolu de coucher par écrit des choses auxquelles je crois, des choses qui m'ont étonnée, justement, des sorties de route. L'école buissonnière est mon activité préférée. Donc, écrire va correspondre à mon école buissonnière aussi. C'est-à-dire que pendant que j'écris, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Donc, les vertus sont infinies. Après, il y a des vertus thérapeutiques qui vraiment nous font du bien. Et juste pour revenir sur une phrase que vous avez dit le cap de la quarantaine, etc. Pour nous, peut-être. Mais c'est fantastique. C'est la meilleure décennie, 40 ans.
Faites-nous rêver. C'est vrai. Moi, j'y arrive dans 5 mois.
Mais
alors.
Voilà, c'est pour ça que vous dites ça. Parce que
je choisis toujours les sujets en fonction de moi.
C'est fantastique.
J'assume totalement la responsabilité.
Absolument. On a une énergie formidable, on sait faire plein de choses, on aime plein de gens, on est curieux de tout, c'est absolument dément. On s'imagine, c'est vrai, quand on a 18 ans que c'est la fin du monde, que les gens de 40 ans c'est terminé, mais pas du tout.
C'est des vieux.
Mais pas du tout, je sais pas ce qu'Alexandre en pense, mais franchement, ça commence à peu près à partir de ce moment-là.
En tout cas, ça commence bien avec Florence. Hein. Ouais. Alexandre, vous êtes d'accord? Quel souvenir avez-vous gardé de votre quarantaine? Bon, je sais pas si vous êtes pas loin, hein, mais...
en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai rencontré de gens qui m'ont aidé à être de plus en plus libre. Et donc, c'est vrai que ma vie aujourd'hui est... il y a 3 ans, je rencontre celle qui est vraiment la femme de ma vie, dont je parle d'un magicien, qui est une magicienne complète pour moi. Et je la rencontre d'une manière... Si on m'avait dit que j'allais rencontrer ma femme en plein confinement en Ontario... Alors qu'on ne pouvait pas s'approcher. Et finalement, tout à coup, je découvre que cette distance est une opportunité incroyable pour s'écrire, pour se rencontrer à un niveau que j'ignorais. Et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'une grande partie de mes amours ont été apparemment charnels, mais irréels. Et tout à coup, je découvre une qualité de présence avec une femme qui est absente. Et c'est si puissant qu'on décide d'acheter notre maison avant de s'être vu.
Sans blague. On n'est plus tout dans les cases, là. Hein. C'est dingue.
Oui, mais on s'est donné des libertés parce qu'on était dans un niveau de vérité.
Ouais.
Ce qui fait que je rentre dans une agence un jour et je dis, voilà, je vous donne une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Et donc, je voudrais un endroit qui ait la poésie de notre histoire. Et on s'est donné de puissantes libertés. Elle est canadienne, donc elle a d'autres codes culturels que les nôtres, d'autres rapports hommes-femmes. Par exemple, les histoires de contraception. Là-bas, en Amérique du Nord, les hommes font leur part. Alors qu'ici, on considère que c'est les femmes.
Mmh. Ça vient.
Et quand on dit qu'ils font leur part, la contraception assez classique à partir d'un certain âge au Canada, par exemple, c'est la vasectomie. Mmh. Donc je me suis mis à parler sa langue. Je lui ai dit, je vais me faire faire une vasectomie, puisque c'est toi que j'aime, tu es canadienne. Et je vais le faire sans l'avoir vue.
Vous avez tout fait. C'est étonnant cette histoire d'amour qui commence. Remarque comme nos anciens. Hein.
J'ai bien vu qu'à l'hôpital en France, quand j'ai dit ça au médecin, il a paniqué. Quoi. parce que c'est un Français.
Différence culturelle, même langue, mais breton.
Je ne peux pas faire ça pour une femme que vous n'avez jamais vue. Et je lui ai dit, mais vous, votre femme, vraiment, vous l'avez vraiment vue ou
vous savez qui, vous prendre pour un fou.
Vous savez qui c'est vraiment. Et puis on a une. En fait, on a le droit, plus on avance dans la vie, de s'échapper du connu.
C'est ce que vous dites, ça, dans votre livre. Hein.
Oui,
c'est s'échapper du connu.
Et c'est pour ça que j'écris ce livre.
Et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette histoire de cases, on a l'impression d'être complètement, même les magazines féminins, enfin, en préparant l'émission, je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, on s'auto-met cette espèce d'auto-injonction à rentrer dans des cases, puisque tel magazine nous dit qu'on va être heureux si on fait ça, si on a des enfants à tel âge, si
on,
ou alors si on n'en a pas, ou alors si... Qu'est-ce que ça vous inspire, Florence, vous ?
On a tous besoin d'appartenir à des groupes. Donc, d'accord. Un groupe, ce sont des codes. Voilà, c'est quelque chose d'instinctif. On va se rallier à un groupe, en général, pour pouvoir s'opposer à un autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si nous sommes ensemble, nous pouvons nous opposer au gars qui est en face, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez naturel que nous faisons, qui est de nous rallier à des choses que nous entendons. Mais j'avais une question pour Alexandre sur cette histoire d'amour, évidemment, qui fait rêver absolument tout le monde. Est-ce que ça n'est pas la distance, précisément, et le fait de ne pas s'être vu, de se voir assez peu, qui ne permet pas de construire aussi une histoire avec énormément d'imagination ? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une part comme ça que vous vivez chacun, qui est votre... Le monde que vous créez destiné à l'autre par rapport à un monde du quotidien ou lorsqu'on est vraiment face à quelqu'un absolument tout le temps.
Que maintenant vous vivez ensemble du coup maintenant.
Oui, entre les deux
tout
pays.
Le temps, mmh. Oui.
Oui, pas tout le temps.
Mais en fait, non. C'est-à-dire que ce qui a été une énorme découverte pour moi, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que mes histoires d'avant, je les avais en grande partie imaginées.
Paradoxalement.
Mmh, alors que là... L'absence a donné un prix au quotidien que j'ignorais.
C'est assez
que
étonnant.
Découvert.
Ça se manifestait comment ce quotidien de loin
j'ai un peu la crève, que j'étais réveillé à 4 heures, par exemple. Depuis 4 heures du matin, je suis au téléphone avec elle. Bon. Et nous parlons du détail de notre vie. C'est-à-dire que tout à coup, je découvre l'énorme prix du quotidien avec elle.
Ouais.
J'adore faire mes courses avec elle. Je suis comme un fou lorsqu'on va acheter des robes. Des choses que je ne faisais jamais.
Oui, parce que c'est rare, non ?
C'est pas rare. On se voit beaucoup. On se voit beaucoup.
Peut-être est-ce votre maturité, Alexandre ? Peut-être est-ce votre, je sais pas, votre
sagesse. Et puis elle est différente. Cette femme est différente. Elle a une qualité de présence.
En tout cas, il plane notre Alexandre. Dans le réel. Vous planez, mais dans le réel.
Ah, mais vraiment dans le réel. Mm. C'est vraiment quelqu'un qui a une qualité de présence. Et c'est quelqu'un qui remet tout au juste niveau.
Mm.
Et en fait, vous apercevez que très souvent, les vies dysfonctionnent parce que on ne met pas les choses au bon niveau. Tantôt, vous voyez un chef de l'État qui tient un propos qui n'est pas à niveau de chef de l'État. Et au fond, le pays n'est pas bien. Quand les parents ne sont pas au niveau de
donc, elle est à votre niveau.
Ça fascine Florence. Hein.
Non, mais ça m'intéresse.
Elle est plus élevée que moi. Je n'avais aucune vie spirituelle avant elle. Je savais intellectuellement ce que c'était, mais je n'en avais pas l'expérience.
Et ça vous apporte quoi, cette vie spirituelle, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame et dans Enquête de sens ?
Une joie avec phénoménale. Avec son jardin. Avec elle. Mais j'ai découvert ça par elle.
Ouais.
C'est-à-dire que... j'ai découvert que prier avec elle était une joie phénoménale, mais qu'elle soit dans la même pièce ou qu'on soit chacun à un bout de la terre et qu'on soit au téléphone ensemble en vivant ça ensemble. Les êtres différents peuvent un jour complètement perturber. L'idée un peu étroite qu'on se faisait de la vie.
Oui, mais c'est pour ça qu'on rentre dans notre sujet finalement, hein, puisque on est en train de se dire que cocher toutes les cases, c'est pas forcément ça qui rend très heureux, même si c'est assez intéressant ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Florence. On a quand même besoin un petit peu de se réchauffer dans un groupe, pour comme des petits animaux un petit peu, qui font partie d'une certaine tribu,
On constate que assez peu de gens sont vraiment capables de liberté.
C'est rare, hein. C'est rare quand même, c'est vrai. En entendant Alexandre Jardin, on se dit, mais moi je serais incapable de faire ci ou ça.
On a tous quand même une capacité d'opposition au cadre. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus ou moins rebelles, il y a des gens... Et puis alors, après, chacun va avoir son cadre. Moi, j'aurais quand même avoir une toute petite pensée pour vos femmes précédentes, parce que je pense qu'elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient.
Elle est sympa, cette Florence.
J'ai de l'affection pour elles.
Mais elles ont fait du mieux. Mais moi aussi, à l'époque, je faisais du mieux.
Oui, voilà, exactement.
C'est ça, la vie, on fait du mieux qu'on peut.
peut,
oui,
de toute façon.
Oui, on
fait
pas
du
de
mieux qu'on peut au moment, où on est
oui.
là.
Oui.
Mais donc, tout ça pour dire que la liberté est quelque chose de très, très relatif. Et peut-être en fonction de la façon dont on a été élevé, Alexandre Jardin le décrit beaucoup, élevé dans un univers justement très libre et très fantasque, où rentraient des personnages ou dont sortaient des personnages, tout ça se mêlant avec à votre capacité de, et d'invention et de narration. Donc ça donne un monde tout à fait spectaculaire. Mais pour des gens qui ont des vies beaucoup plus normales, quand je dis normale, c'est peut-être beaucoup plus rangé, une imagination qui est plus proche de la réalité, on peut faire des choses extravagantes en faisant un tout petit rien du tout. Vous avez des gens qui vont jamais tourner à droite quand le chemin est à gauche. Le jour où ils le font, ça leur semble complètement dingue. Là où vous vivez une histoire qui ne ressemble à rien. Donc, nous avons tous une possibilité de sortir de notre cadre.
Et la peur d'être jugé, Florence. C'est vrai que, vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'en cochant toutes les cases, on a peut-être aussi cette attente d'être mieux jugé parce qu'on rentre dans telle ou telle... Je pense par exemple au travail, typiquement. Ah bah oui, une telle, elle a des enfants, elle a l'air d'avoir une vie parfaite avec son petit mari, ses petits enfants, son truc. Bon, bah, je caricature, mais c'est un peu ça, finalement, aussi. La vie aujourd'hui, en tout cas, j'en sais rien comment c'était avant, mais il y a peut-être qu'il y a toujours eu aussi des codes. Je pense que probablement, il y a toujours eu des codes d'appartenance, etc. Mais c'est difficile de braver un petit peu ces jugements extérieurs.
Ça passe aussi un peu avec l'âge, justement.
Ça passe avec l'âge,
mais c'est pour ça. Je connaissais ces chiffres de où, en gros, à 40 ans, théoriquement, on est au fond du saut dans la courbe du bonheur.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on a plein de responsabilités, parce que les enfants sont encore pas très grands, on a des emprunts à la banque, on a fait des choix qui ont fermé certaines portes, et donc on se rend compte que, il y a des pays qu'on visitera pas dans sa vie, ou des pays ou des métiers qu'on n'exercera pas. Donc c'est pour ça qu'on a un petit moment de réalité. Mais ensuite, ça passe. Justement, c'est ça qui passe, c'est-à-dire qu'on va se libérer de tout ça, parce que justement les enfants grandissent, on retrouve son temps à soi, sa personne à soi, et puis les métiers qu'on ne fera pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie de les faire, et donc c'est là où justement on va gagner en liberté. Pourquoi ? Parce que justement on s'éloigne du jugement des autres. Peu importe ce que l'on dit de moi, il y a quand même le chemin que j'ai fait, et ce que je ressens, et ce que je sais aimer, et je sais qui sont les gens qui me font du bien, je sais quelles sont les activités qui me font du bien, et à ce moment-là je suis beaucoup plus concentrée sur, en effet, celui qui est mon chemin.
Et puis, typiquement, la question de l'amour après 40 ans, alors qui fait justement parler, notamment nos humoristes qu'on connaît bien, que ce soit Blanche Gardin ou même Florence Foresti, etc. Alexandre Jardin, vous êtes la preuve vivante que finalement, tout est possible à chaque instant de la vie, point d'interrogation.
Mais c'est le métier de la vie de nous surprendre.
C'est le métier de la vie de nous surprendre.
Si on se connecte à ça, C'est totalement incroyable ce qui se passe. Surtout si j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait que l'extraordinaire surgit. C'est que les gens qui n'ont pas l'air de héros ont une puissance de romanesque qui, si les circonstances les bousculent un tout petit peu. Et il y a un moment que c'est ma femme canadienne qui m'a raconté cette histoire qui est dans le livre. Ce qui s'est passé au 11 septembre au Canada, il y a eu un moment tout à fait extraordinaire et qui a rendu les gens intensément heureux après, mais tellement heureux que c'est célébré aujourd'hui. Le 11 septembre, Bush dit « descendez les avions, shut down the aeroplanes ». Forcément, il avait peur que les avions deviennent des bombes volantes. Le patron de l'administration qui gère l'aviation civile aux États-Unis convertit ça en « shut down l'espace aérien ». Et dans la seconde, les avions qui survolaient les États-Unis, il y avait 80 000 personnes là-haut, doivent décamper.
Se poser.
Oui, mais non, quitter le territoire
américain. Quitter le territoire américain.
Ne pas se poser aux États-Unis. Ils doivent foutre le camp. Et donc, il y a une grande partie qui arrive au Canada. Mais les Canadiens ne veulent pas non plus que les gros avions arrivent vers Toronto, vers les grosses villes. Et en un quart de seconde, des gens hyper normés, l'aviation civile, hyper procéduriers, l'aviation civile, enfin, je veux dire, où on ne bouge pas d'un millimètre, vont devoir poser des centaines de Boeing et d'Airbus avec des milliers de gens là-haut, dans des endroits sans tour de contrôle, dans des bleds du fond du Labrador.
Dans des champs, quoi.
Ouais. Dans des champs. On ne sait pas comment les garer. personne ne sait ce que ça veut dire de poser toutes les 30 secondes un Boeing dans des endroits. Enfin, je veux dire, un truc de fou. Et surtout, les villages qui les reçoivent voient arriver 8000 personnes qui arrivent en tenue parce qu'ils foutaient le camp à Hawaï, alors qu'on est dans le Grand Nord.
Et donc,
ils se sont tous adaptés.
Intéressant.
Et ils se sont tous adaptés.
Je vous propose de continuer cette conversation sur l'adaptation, finalement, due à un imprévu, juste après cette petite page en couleur. À tout de suite.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10.
Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason en septembre, Handel, seigneur et maître de l'oratorio, Jakub Józef Orliński, rencontre avec un contre-ténor phénoménal, Ferenc Frickschey, portrait d'un chef fulgurant. En cadeau, le guide des opéras 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les plus beaux chefs-d'œuvre de Lili Boulanger dans des interprétations légendaires. Avec Diapason, osez être classique.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Mgr Patrick Chauvet, et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capharnaüm, Tibériade et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Question du jour en ce vendredi, un brin, farandole, c'est un petit peu le bazar avec Alexandre Jardin et Florence Rémer sur ces plateaux. Autour de cette question, comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans, Alexandre Jardin qui est écrivain, qui a évidemment, qu'on connaît pour tous ses ouvrages avant Les Magiciens, qui est presque une sorte d'autobiographie chez Albin Michel, inspirée de tous ses mentors écrivains et autres héros. Que ce soit des héros de cinéma ou des héros qui ont vraiment existé ou des héros de livres, de romans. Et Florence Avant-Schreiber qui est avec nous, qui justement rend hommage à l'écriture, écriture thérapeutique, écriture pas seulement d'ailleurs. Écrire pour s'épanouir tout simplement et kiffer, c'est le titre de votre livre chez Marabout, chère Florence Avant-Schreiber. Alors justement, revenons-en à notre sujet du jour, si vous le permettez. Je crois que vous écrivez, vous consacrez un chapitre à l'écriture thérapeutique. Ça, c'est quand même assez intéressant de se dire, parce que souvent on se dit oui, c'est très bien pour les autres, mais vous avez observé une recrudescence, enfin, ça attire énormément de personnes qui sont un petit peu en souffrance, en mal-être même au travail, et qui s'en sortent par l'écriture, même si elles ne savent pas écrire. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Qu'est-ce que ça apporte concrètement au fond, le fait d'écrire comme cela?
Alors, vous avez dit que je rends hommage à l'écriture, c'est pas exactement ça.
Ah bon?
J'essaye au contraire de complètement démocratiser à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant un hommage que, bon, un respect bien sûr, mais
ouais.
L'écriture thérapeutique, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a un exercice absolument formidable qui consiste à, pendant 20 minutes, il faut avoir un minuteur, s'asseoir et écrire à propos du pire truc qu'on a vécu dans la vie. Mais le pire truc. Donc, il y a des gens comme ça ont des traumatismes ou des moments ou des situations qui leur sont arrivées. On écrit pendant 20 minutes. Le lendemain, on recommence. 20 minutes de nouveau. Et le surlendemain, on recommence 20 minutes de nouveau.
D'accord.
Et en fait, entre ces trois textes, il va se passer quelque chose qui est que on commence par le chaos de la situation, parce que quand il y a un traumatisme, en fait, on ne sait pas très bien le raconter de façon logique ou comme une histoire. Et ça se termine par une histoire tout à fait claire dont on est le personnage principal, et ce ne sont plus les événements extérieurs qui nous sont arrivés, puisqu'en général, ça commence comme ça. Quand il nous est arrivé quelque chose, on décrit ce que l'on s'est pris dans la figure.
Ouais, de façon presque passif.
C'est ça. Et le troisième texte, on est redevenu l'acteur. Et c'est un chercheur qui s'appelle James Pennebaker qui a travaillé avec cette technique-là absolument toute sa carrière, avec des étudiants, des gens qui vont passer des examens, des gens qui souffrent de traumatismes, etc. Et aujourd'hui, par exemple, il faut savoir, et c'est très simple, vous voyez que c'est très simple, on n'a presque, on n'a même pas besoin de thérapeute, c'est-à-dire que c'est entre soi et
son... C'est un bon truc à faire, ça.
Oui, ouais. Tout à fait. Et aujourd'hui, à l'hôpital Sainte-Anne, oui. À Paris, à peu près 70% des patients vont participer à des ateliers d'écriture. Et donc, on va les asseoir dans des pièces. Et alors, évidemment, le psychiatre valide le fait de pouvoir le faire. Là, c'est une écriture créative, puisque on s'est rendu compte que si, par exemple, je vous demande d'écrire sur le sujet qui peut être « Est-ce que Dieu est dans les frites ?», le simple fait de répondre à ça, d'avoir une contrainte créative, donc ça vous oblige à sortir un peu de votre système de pensée habituel, fait que vous quittez le piquet autour duquel vous tournez. Parce que très souvent, les difficultés... voilà.
Et donc, le petit vélo, le fameux petit vélo, quoi.
Est occupé ailleurs. Vous lisez votre texte, on vous écoute, les gens se marrent, les gens vous ont entendu.
Forcément.
C'est fantastique. Donc,
c'est une belle sortie de route, au fond.
Ce sont des sorties de soi, en fait.
Ouais.
Donc, justement, de nouveau, on est là, on sort quelque chose de la boîte. Et dès lors qu'on a appris à écrire à l'école, ce qui est le cas de vraiment la majorité d'entre nous, hein, franchement, on peut écrire un texte. Il n'a pas besoin d'être littéraire. Il n'est pas là pour être publié. Je sors un bout de moi. Je sors une de ces voix qui m'habitent, parce qu'il y en a plein qui nous habitent, et celles qui font mal, on peut...
En fait, vous rendez hommage au travail d'écriture, on va dire ça comme ça, ou à la puissance de l'écriture,
à la puissance de ce geste
qui est à la portée de tous.
Oui, qui est à la portée de tous.
Et à la sortie du périmètre.
Et à la sortie du périmètre.
J'ai cru que vous alliez dire de la sortie du périph'.
Dans lequel notre cerveau...
C'est ça.
Tourne en rond.
Et le langage est relié à la voix la plus forte, c'est-à-dire... Ouais. Mais il y en a d'autres derrière, et celles qui souffrent, en général, sont planquées un peu derrière, donc elles ont besoin de quelque chose d'autre.
Justement, Alexandre Jardin, dans votre livre consacré à vos magiciens, à vos petits et grands magiciens de votre vie, lesquels vous mettriez en avant pour répondre un peu à ces personnes, à ces femmes et à ces hommes qui ont passé tout juste, par exemple, le cap de la quarantaine et qui se disent finalement, moi je suis passé à côté de ma vie, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis pas mariée comme je voulais, j'ai pas fait telle carrière, j'aurais dû faire cette carrière-là, j'aurais dû faire telles études, c'est foutu de toute façon. Et puis voilà, qu'est-ce que vous répondriez, ou quel héros ou quelle personnalité répondrait à ces personnes qui se lamentent un petit peu à l'orée des 40 ans, ou bien...
Moi, je leur recommanderais de découvrir des gens, soit réels, soit en lisant, qui déplacent l'idée qu'ils se font de ce que c'est qu'un être humain.
C'est-à-dire,
quand on découvre la vie... je vais en prendre un, par exemple, qui fait partie des magiciens. Mais il y en a plein.
Allez-y.
Donc, mais allez à la recherche des gens qui vont vous perturber dans l'opinion que vous faites de ce qu'est un être humain. Dans les magiciens, je parle par exemple d'un Polonais totalement extraordinaire qui nous apprend jusqu'où on est libre quand on refuse à 100% d'être déterminé par autrui. C'est un Polonais.
C'est dur, ça.
Oui, mais ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on en a la capacité, c'est qu'il m'informe que c'est possible, puisque lui, il le vit.
Oui.
Ça ne veut pas dire que je vais en avoir la possibilité. Il m'ouvre simplement cette possibilité. Il s'appelle Witold Pilecki. Mm. Ce type est le seul déporté volontaire à Auschwitz. Il est très peu connu en France. L'armée polonaise secrète sent bien qu'il y a un truc qui se passe en Pologne et veut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'Auschwitz. Il décide donc d'envoyer un agent qui va se faire prendre dans une rafle, pour établir un rapport chiffré. Et ça ne se bouscule pas, hein. Et il y en a un qui s'appelle Witold Pilecki qui dit « Ok, j'y vais ». Et deuxième mission, il rentre pour défier le Troisième Reich, puisqu'il rentre pour structurer une organisation de combat interne pour prendre le contrôle des gardiens en cas d'attaque alliée. Bon. Pilecki y va. Il établit son rapport. Il le fait apprendre par cœur par un déporté. de manière à ce que le rapport ne soit plus sur du papier, mais dans un cerveau, il fait échapper le type avec deux autres. Comme il n'est pas déporté, il n'a pas la structure psychique de quelqu'un qui s'est fait attraper. Il ne subit pas de la même façon un système où tout est fait pour détruire notre psychisme. Il est venu pour...
Il se déconditionne, il ne se conditionne pas, en fait. Il ne se laisse pas conditionner.
Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est vraiment le dernier endroit où on y arrive, normalement.
C'est stupéfiant.
C'est stupéfiant. Et il est tellement posé que l'organisation de cette évasion est faite avec une telle minutie, voire même une forme de tranquillité qui est stupéfiante, qu'il réussit l'évasion du type. Les trois sortent. Donc le rapport sort. Le rapport est décodé par la résistance polonaise, arrive à Londres, il attend. Et quand il comprend que les Alliés ne vont pas les aider à Auschwitz, quand il comprend qu'il a monté au fond pour rien, en courant des risques inimaginables, toutes les structures de résistance interne, il le prend très mal et il s'échappe. Il sort.
Tout simplement.
Là, il est déçu seulement à ce moment-là.
Tout d'un coup, il sort.
Mais il sort.
Ce qui permet à ce type de faire sortir un rapport, d'établir un truc, de structurer, de machin, il y a une puissance de liberté. De refus d'être entièrement de refus entier d'être déterminé par qui que ce soit d'autre. Parce que quand même être à Auschwitz
parce qu'il faut survivre pendant ce temps-là.
Il reste 947 jours.
Mais ça pose quand même la question. Effectivement, ça nous inspire pour la question de la liberté, parce qu'effectivement même dans cette question qui est posée aujourd'hui,
ça nous apprend qu'il y a des gens qui ont fait ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut, ou que c'est facile.
Ouais.
Évidemment que ça.
Ça nous inspire.
C'est donné à tout le monde de se déconditionner.
En tout cas, moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui m'apprenaient que je n'étais pas forcément enfermé dans l'opinion étroite que je me faisais de moi.
Je crois là-dessus, Alexandre a raison, il faut s'inspirer d'autres gens et s'appuyer sur d'autres gens, parce qu'on ne peut pas imaginer plus que ce que l'on est capable d'imaginer soi-même.
Oui.
Il y a quand même ça. Donc il faut des supports. Et alors, par exemple, le livre d'Alexandre en est un, parce qu'on rencontre en effet comme ça des destins. Je peux vous faire une confidence. Cette semaine, il y a une espèce de scène terrible à la maison, d'engueulade familiale. Enfin voilà. Donc j'en ai même pas dormi de la nuit. Donc je lis le livre d'Alexandre et je rencontre Tony le Gitan.
Extraordinaire.
Et Tony le Gitan, le personnage que vous décrivez, qui, tous les grands moments de sa vie, notamment les moments d'amour, etc., ont été déclenchés par une grosse baston, y compris avec une policière qui l'interroge, il lui rentre dans l'art, etc., il se marie pendant 17 ans. Ça m'a permis de retrouver le sommeil. C'est-à-dire, je me suis dit, une engueulade. C'est vrai, pourquoi est-ce que je m'inquiète à ce point-là? J'ai trouvé ça absolument génial. C'est tombé pile au moment. Donc, ça, c'est une imagination que je n'avais pas. C'est-à-dire que je ne pouvais pas à ce moment-là me dire, l'engueulade, c'est vraiment exactement un truc, fécond, c'est formidable et tout. J'étais juste paniquée par la situation. Donc on a besoin d'histoire, on a besoin de regarder faire des gens, on a besoin de parler à des gens, on a besoin d'être provoqué, de se mettre dans des situations où on a la tête à l'envers.
Mais c'est très fort ce que vous dites. On ne peut pas imaginer plus que ce qu'on peut imaginer. Donc on a besoin de support.
De l'imagination des autres.
De légèreté, ou bien au contraire, parfois
de regarder les gens vivre. C'est fascinant de regarder les autres.
Par exemple, l'engueulade. Elle vient de parler de l'engueulade.
Ouais.
On se dit, a priori, c'est un problème. Ça n'a pas bonne presse, le fait de s'engueuler. Un jour, je comprends, c'est pour ça que je parle de lui dans le livre, je comprends que Magellan réussit le premier tour du monde.
Par un conflit.
Parce qu'il sait provoquer des conflits.
Ouais. C'est étonnant.
Puisqu'il a une rébellion permanente, latente, de son équipage. Et tous les types se disent, le mec est dingue, il ne sait pas où il va. Il va nous tuer. Donc, il y a en permanence une rébellion. Donc, il la sent. Et quand il sent qu'il ne va pas y couper, il choisit l'heure. Il choisit l'endroit où il va être dans le bateau. Il choisit où sont ses derniers alliés. Et il y va. Et il provoque. mais il va le faire un nombre incalculable de fois. Et c'est comme ça qu'il fait le tour du monde.
Et même en amour, vous dites, hein, je crois. Hein. Non, c'est pas lui, c'est un autre.
C'est un autre.
Mais c'est amusant, c'est vrai qu'un auteur comme le conflit, on n'imagine pas d'une seconde que ça peut fonctionner.
Et finalement, on se rend compte que c'est cet art du conflit qui va lui permettre de naviguer autour du globe. Donc, c'est un moteur génial.
C'est comme ça que s'élèvent les adolescents, hein, quand ils font ça avec leurs parents. Hein. Au moment de devoir annoncer les mauvaises notes, on s'engueule sur autre chose, comme ça, c'est réglé. C'est mieux comme le monde, cette histoire. Ouais,
cette question de la sortie de route est intéressante, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est finalement, si ce n'est le fil rouge, du moins... peut-être la recette avec un grand R au fond.
Échappez-vous.
C'est un peu ça. Mais en étant dans le réel, en ne quittant pas la réalité à laquelle on doit consentir forcément, sinon on devient fou. Mais en revanche, Florence, c'est vrai que, alors par exemple l'écriture, mais il y a d'autres moyens de s'inspirer effectivement, de sortir un petit peu de son petit précaré.
L'exercice qu'elle a indiqué, c'est
vrai. Eh bien écoutez, moi je vais pratiquer votre exercice. Oui. Je vais l'expérimenter. Il y en a d'autres ou pas
Mais oui, alors le livre en est truffé parce que il y a quelque chose qui est absolument salutaire, dont on ignore la puissance, c'est de tenir un journal. J'ai été élevée par un monsieur qui tenait son journal tous les jours depuis l'âge de 15 ans, tous les jours à 19h. Donc j'avais décidé, puisque je préfère m'opposer au cadre, que jamais de ma vie je ne tiendrai un journal, parce que franchement, ça, c'était trop de... Enfin, voilà. C'était ça, j'étais totalement contre. Et puis, en étudiant tout ça, quand même, il revient absolument régulièrement que... consigner les choses, parce que de nouveau, on va poser des choses qui d'abord nous polluent l'esprit, parfois, ou qui ont été formidables, que nous allons oublier. Donc ça crée aussi une mémoire. Donc il y a un effet petit pousset, où on vient comme ça mettre des cailloux sur sa route. On règle ses comptes avec qui on veut, parce que dans un journal, en fait, nous avons tous besoin d'un endroit où nous sommes exactement comme nous sommes.
Ouais.
Et même les potes, et même les conjointes, en dehors de celle d'Alexandre Jardin,
qui nous fascine.
Même les conjoints ne sont pas ce réceptacle de tout ce qui nous habite, de toutes les horreurs qu'on se dit, de toutes nos valeurs tordues, etc. On a besoin de pouvoir les raconter quelque part. Et donc, il faut s'assurer que ce journal ne sera lu par personne. Et dans ce cas-là, comme d'ailleurs ces textes, ces trois textes dont je vous ai parlé, il faut partir du principe qu'ils ne sont lus par personne. C'est-à-dire, c'est pas du tout fait pour ni intéresser, ni expliquer, ni faire comprendre, ni se faire plaindre. Ouais. C'est vraiment fait pour sortir ce que l'on a. Et dans le journal, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cet endroit où on est complètement comme on est, sans censure. Et ça va donc nous servir à grandir, à pouvoir sortir de nos propres clous, c'est-à-dire à se rendre compte. Parce que votre question est touchante, vous nous parlez des cases à cocher.
Ouais.
Et la réponse est presque dans la question. C'est de laisser tomber ces cases. Et dans se mettant juste à côté, déjà vous êtes libre. Juste de sauter à côté de la case, déjà vous avez gagné en liberté.
Moi je vois une marelle quand vous me décrivez.
Mais c'est ça, mais c'est la marelle et on sort de la marelle. Ouais. Justement, on sort de la marelle et juste parce qu'on se dit qu'il y a une case, et ben c'est l'occasion de faire le contraire.
Eh bien, allons-y. Il est où le bonheur pendant ce temps-là ? Nous interroge Christophe Maé. À tout de suite.
Radio Notre-Dame.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Ce fichu bonheur, comment être heureuse sans cocher toutes les cases après 40 ans, nous en parlons ce vendredi matin en compagnie de Florence Avant-Schreiber, auteure conférencière qui a publié « Écrire pour s'épanouir et kiffer » chez Marabout et Alexandre Jardin, écrivain, pour son dernier livre « Les magiciens » chez Albin Michel. Et oui, nous évoquions effectivement les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, et puis les regrets aussi, qu'on peut avoir, par exemple, à 40 ans ou après 40 ans, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Alors, Florence évoquait juste à l'instant un nouveau phénomène, peut-être, je ne sais pas si ça date d'il y a longtemps, les fameux late boomers, effectivement, le fait de se dire, bah non, c'est pas trop tard, je peux m'y mettre. Alors, on ne peut pas parler de tout, tout n'est pas faisable à n'importe quel âge, mais quand même. Par exemple, vous êtes mis à écrire, vous m'avez dit, très tard. Enfin, très tard, non, mais
45
pas à 12
ans. Dans 45 ans, j'ai vraiment, je me suis mis devant un ordinateur pour écrire un texte. À 45 ans, c'est l'idée de late bloomer, c'est qu'il peut nous arriver des choses absolument fantastiques à n'importe quel moment, et surtout bien plus tard.
Oui.
Vous parlez de regrets, mais alors là, je vais faire ma spécialiste de la psychologie positive. Et si on pensait plutôt aux projets à venir qu'au regret.
Ouais.
C'est-à-dire, si on se disait « qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ?» Ça, c'est un peu ma stratégie. Je me demande « qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ?» Et quand quelque chose jaillit, eh bien, je m'y mets. Donc, comme là, je vous préoccupe, à 50 ans passés, par exemple, j'ai écrit ma première pièce de théâtre que j'ai jouée. C'était moitié comédie musicale, ça chantait, ça dansait, etc.
Donc, quand on n'a pas votre talent...
C'est pas mon talent, c'était mon désir. C'est comme une pousse qui n'avait pas poussé, mais elle n'était pas morte. Voilà, ce qui n'est pas mort est encore vivant. Et donc, cette affaire était encore vivante à l'intérieur de moi. Mais je me suis éclatée, comme je ne savais pas qu'il était possible de s'éclater. Et puis, ça y est, c'est fait. Je n'ai pas besoin d'en faire ni une carrière, ni quoi que ce soit. C'était, y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Je me suis avoué ce désir. Je me suis avoué le fait que, quand j'étais petite, j'avais envie d'être Julie Andrews. Et à un moment, je me suis dit... Mais de nouveau, hein, c'est quelqu'un qui m'a posé la question en me disant... Que voulais-tu faire quand tu étais petite? J'ai dit, je ne sais pas très bien. Mais si, tiens, j'aurais bien été Julie Andrews. Et donc, le gars me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu fais avant ce soir? Donc, je m'étais inscrite en effet à un cours de théâtre qui était catastrophique et calamiteux, mais en tout cas, ça avait lancé l'affaire. Et ça, on peut le faire absolument tout le temps. Et moi, je ne fais que ça, de chercher quelle est la prochaine chose que je n'ai pas encore. Je n'ai pas de regret, je n'ai aucun regret, puisque je fonctionne plus dans le désir. Donc mettons-nous dans le désir. Mmh. Et à ce moment-là, peu importe ce que nous n'avons pas fait, c'est ce qui vient, ce qui nous attend, ce qui...
C'est vrai que par rapport à 20 ans, l'âge de tous les possibles, plus on avance en âge, que ce soit 30, 40, 50, etc.
Mais non, il y a très peu de choses possibles à 20 ans. On est très bloqué.
Mais en fait, on est assez bloqué finalement. Mais c'est vrai ce que vous dites, Alexandre. Oui. Je suis assez d'accord, mais en fait. Hein. C'est imaginatif, ça.
La liberté
ça,
mais... vient en route. À 20 ans, elle n'est pas devenue Julien Drouze. Mais on a tous mis le blocage.
Ce sont des autorisations intérieures. À 20 ans, on a très peu d'autorisations intérieures.
Oui. On a peur un petit peu.
Non, on a des trucs à faire. On est dans un cycle. Il y a plein d'hormones qui circulent et tout. Enfin, on est porté par des choses. Et puis ensuite, plus on avance, plus on a besoin de se porter aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus poussé par le corps et ses flux. Donc, la tête est plus libre aussi pour aller chercher ce qui compte vraiment.
Ouais. Et les regrets, Alexandre, qu'est-ce que vous répondriez-vous sur la question des regrets?
Mais
vous
en avez pas du tout.
Je pense qu'il en a pas.
Vous en avez pas. Mais non, ah, vous n'en avez pas du
j'en
tout.
J'en ai pas. Mais, pour une raison aussi, même petit, je voyais des gens qui ne vivaient pas comme ça. C'est-à-dire qui n'étaient pas retenus. Ma grand-mère, quand elle était toute vieille, tombait éperdument amoureuse dans des correspondances fabuleuses. Ou alors reprenait un amour de jeunesse en Normandie. Et un jour me dit, mon chéri, elle vivait en Suisse. Elle me dit, il faut que tu m'emmènes à un rendez-vous avec un amour de mes 18 ans. Et alors, c'était extraordinaire parce que la veille, avant de partir, elle me dit, je lui dis, pour la douane, j'ai besoin de ton passeport ou ta pièce d'identité. Et elle me dit, je n'en ai pas. Je lui dis, comment t'en as pas? T'as pas un truc périmé, un machin? Elle me dit, non. Elle me dit, je suis contre.
D'accord.
C'est pas une opinion.
c'est obligatoire, quoi.
Oui, elle m'a dit, mais je sais qui je suis. Et cette femme, je pense que c'est parce qu'elle savait qui elle était. Elle n'a jamais laissé quiconque la définir. Ni son âge, ni je ne sais quoi.
Oui. Ça donne une liberté formidable, hein, évidemment.
Formidable, ouais. C'est-à-dire qu'elle savait qui elle était. Elle n'avait pas l'idée qu'un État puisse la définir.
C'est quoi le regret, en fait? Pourquoi est-ce qu'on regrette des choses?
Faut arrêter ces conneries tout de suite.
Je vais arrêter l'émission tout de suite.
Non, mais il faut arrêter tout de suite.
Faut arrêter tout de suite.
Et puis en plus, il faut surtout avoir conscience que toutes les opinions qu'on se fait de soi, pas toutes, mais une grande partie, sont héritées d'une époque où on mourait 40 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain...
On mourait à 40 ans, à une époque.
C'est aussi pour ça que j'écris Les Magiciens. On est obligé de tout reconcevoir à partir du moment où on doit se projeter dans l'existence sur une centaine d'années.
C'est juste.
Donc, est-ce qu'on va continuer à être accroché à ces anciennes certitudes qui ont fonctionné dans une partie de vie, ou est-ce qu'on va être capable de s'échapper de ce qu'on connaissait de la vie? C'est pas la même chose de vivre 65 ans ou 100.
Mais là malheureusement, l'environnement a encore des efforts à faire, parce que, notamment dans la vie professionnelle des gens, qui est quand même quelque chose qui est quand même très présent, typiquement, les femmes de 50 ans sont considérées inaptes.
Ah, c'est poubelle, absolument. Quoi.
Oui, c'est poubelle, c'est-à-dire que ça ne sert plus. Or, il nous reste encore la moitié de notre vie. Donc, c'est aussi cette redéfinition. Il y a des études formidables qui ont démontré qu'on a enfermé des hommes qui avaient entre 60 et 80 ans pendant une semaine dans un hôtel où on a enlevé absolument tous les miroirs qui étaient au mur, et on leur a demandé de se présenter les uns aux autres comme ils étaient lorsqu'ils avaient 30 ans. Donc, s'ils étaient garagistes à ce moment-là, ils disaient, voilà, moi, je suis garagiste. Ils passent une semaine comme ça. Et donc, pendant une semaine, ils se vivent à 30 ans avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils se présentent de la sorte. Avant de rentrer, on mesure tous leurs signes vitaux, c'est-à-dire leur pouls, leur tension artérielle, leur rythme cardiaque, leur vue, leur oui, etc. On mesure absolument tout. Et au bout d'une semaine, et on les prend en photo. Au bout d'une semaine, quand ils sortent, on les reprend en photo et on remesure absolument tout. Eh bien, en fait, ils ont rajeuni. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont grandi, qui ont récupéré 2 cm, qui se sont redressés, etc. Pourquoi ? Parce que pendant une semaine, rien de la société ne leur a renvoyé qu'ils étaient âgés. Et comme eux se vivaient dans cette énergie qui était la leur lorsqu'ils étaient trentenaires ou quarantenaires, eh bien, ils étaient, leur vitalité a augmenté. Donc, il y a cette pression aussi de la manière dont on nous regarde, dont on se regarde, dont on... voilà, tout ce qu'on fait pour ne pas paraître vieux, parce que, en fait, ceux qui nous le renvoient nous le rappellent. Ouais. Donc, de nouveau, ça demande une force extrême, mais regardons les gens autour de nous qui font ça. J'ai la chance d'avoir une belle mère, tout à fait incroyable,
Perla,
Servan Schreiber, 77 ans, jeune veuve malheureusement pour elle, ça c'est très dur dans sa vie, mais la vitalité de Perla, sa capacité de transformation est tout à fait spectaculaire. Ouais. Tout à fait spectaculaire. Elle est en train de devenir gourelle, parce que les gourous femmes sont des gourelles. Gourelles de la cuisine, radiophonique notamment.
Absolument. Bon,
c'est absolument formidable. Donc c'est possible. Donc il y a vraiment ce regard que l'entourage pose. Et donc, de qui s'entoure-t-on? Perla est entourée d'amis qui ont 30 ans, 40 ans.
Il faut bien s'entourer, c'est aussi une importance.
C'est un choix. C'est un choix, c'est de qui s'entoure-t-on.
On reprend un petit peu, là, voilà, on écrit d'ailleurs, pourquoi pas, tiens, telle personne, est-ce que...
Nous sommes extrêmement perméables aux gens qui nous entourent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le groupe que je forme, le groupe que je forme va aussi conditionner la façon dont je vais réagir. Donc je peux changer le groupe, enfin, je peux... ajuster le groupe. Je peux faire rentrer des gens dont la vitalité va me faire du bien. Et alors justement, j'ai créé un atelier d'écriture où se réunissent comme ça des gens qui vont goûter à toutes ces techniques. Et donc ça permet typiquement de lire, d'être lu, de croiser des gens qui ont des vitalités différentes de la mienne, qui ont sur les mêmes sujets un autre regard parce qu'ils sont d'horizons complètement différents. Et quand on se met comme ça dans des cercles qui changent, on change avec le cercle aussi.
Magnifique.
Donc on peut bouger.
Oui, on sent que l'autre intervient à ce moment-là dans ces questionnements un petit peu, enfin plus ou moins tragiques, les grands questionnements existentiels qui peuvent nous tarauder, qui peuvent même nous blesser à certains moments de la vie. Et bien finalement, c'est les autres qui peuvent aussi, les autres qui sont là, enfin en chair et en os, pas forcément couchés sur du papier, mais qui sont autour de nous.
Surtout qu'aujourd'hui, c'est très simple. C'est-à-dire...
Comment ça, simple?
Regardez, je vis quelque chose.
Alors... Tout est simple avec Alexandre.
Mais c'est, oui.
Accessible.
C'est génial. Accessible, c'est ça que vous voulez dire?
Et même techniquement simple. En ce moment, il y a des gens qui lisent Les Magiciens. Bon. Ils se posent des questions, mais ils n'ont pas forcément mes magiciens, ils ont les leurs.
Bon. Ouais.
Et que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de créer des pages Facebook, des groupes Facebook thématiques. Hier a été lancé les magiciens de l'éducation. Des gens qui ont envie de penser autrement les questions éducatives. Ils s'inscrivent en masse. Ils sont en train...
Il y a de quoi faire, en plus.
Or, mon expérience des réseaux, je sais qu'il y a bien un moment, ils vont se dire, OK, mais on va se voir. Et donc, il y a des amitiés qui vont naître. Il y a des projets communs qui vont naître. Ce n'est pas hyper compliqué de créer une page Facebook, un groupe.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, je vais accompagner toutes les semaines. Je vais faire des Facebook Live pour lancer une nouvelle page, un nouveau groupe. Parce que nous ne sommes pas obligés de rester tout seuls à réfléchir autrement.
On ne peut pas réfléchir autrement tout seul.
On peut pas.
En fait, c'est plutôt l'inverse. Oui. C'est impossible. Impossible de
alors
changer.
On mouline de façon négative.
Et c'est sinistre, en plus.
C'est sinistre, exactement. C'est sinistre. Ouais,
ça ne sort pas du cadre. Enfin, il n'y a aucune évolution, puisque, en effet, c'est de nouveau, hein, nous sommes notre propre limite. On est quand même une toute petite chose. Hein, même
sur notre vaste univers.
Mais aujourd'hui, on peut le faire avec son téléphone. S'agréger par...
Je ne m'attendais pas à ce qu'on termine par des pages Facebook.
Mais moi non plus, je ne m'attendais pas en publiant ce livre. Comment voulez-vous que je le sache à l'avance, ce qui va se passer?
En tout cas, sortez des cases et sautez à côté. Moi, c'est ce que j'ai retenu.
Ensemble.
Ensemble, en plus.
En
voilà, ça c'est important.
Et par écrit, et là, c'est parfait.
Et écrivez, surtout. Merci infiniment à vous deux, Alexandre Jardin et vos magiciens, et Florence Servan-Schreiber. Et écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout, merci infiniment. Et sortez de vos cases, bon Dieu.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.